Écoutez.
La force de la radio, c'est qu'elle n'a pas d'image.
Vous êtes sur France Culture.
Votre après-midi sur France Culture, 15h, tout un monde prend le pied de la lettre aux sources de l'écriture. En dehors des signes graphiques découverts en Syrie en 1929, datés du XIVe siècle avant notre ère, qu'en est-il des origines premières de l'écrit ? 16h30, Un poco agitato, actualité musicale, celle du festival Pro Quartet avec le quatuor Benaïm. 17h à voix nue, retrouvons les dialogues mensuels et cette fois, c'est un échange entre Alain Françon, metteur en scène, et Dominique Valadier, comédienne, que nous allons suivre cette semaine. Le parcours artistique de Dominique Valadier se construit autour de deux rencontres essentielles, Antoine Vitez, dont elle fut l'élève au conservatoire, et Alain Françon, qui depuis 1996 dirige le Théâtre National de la Colline à Paris. 17h30, les pieds sur terre, cette semaine, période de fête, un samedi à l'Hyper. Ambiance fiévreuse au supermarché Leclerc du Mans, temple de la consommation avec l'approche de Noël. 18h30, travaux publics étant directs et en public du Café El Sour, 35 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, avec Mona Ozouf, auteur de Varenne, la mort de la royauté chez Gallimard. Bon après-midi sur France Culture.
Bonjour à tous, c'est Marie-Hélène Fraisset, c'est Tout un monde. Il est presque 15h. Alors aujourd'hui, dans Tout un monde, célébration de l'écriture et de l'écrit, en compagnie de Marie-Hélène Potier, Jérôme Peignot et Olivier Germain-Thomas.
Ora, pensavo al nostro amore dal giorno fa.
La vita umana è inviolabile.
Io voglio che un bel giorno molto muovi, na pe yanyo, lo tango manca anche medi.
Che amore, mi tu no asite e mi elpo.
Sa, me o togite. ゆっくり
Ça prend que tu me lâches à 4 heures.
Tout un monde.
Play as time goes by.
Écrire n'est pas seulement une activité technique, c'est aussi une pratique corporelle de jouissance, dit Roland Barthes, et on pourrait ajouter dans le même esprit que lire n'est pas seulement une recherche de sens, mais aussi une pratique sensorielle dans laquelle l'œil enregistre et transmet quelque chose de très matériel et qui a au sens le plus strict du caractère et de la substance. Une évidence qu'il est peut-être bon de rappeler, en un temps où le goût du bien écrire semble avoir disparu avec la plume sergent-major de nos parents, aujourd'hui passée de la trousse d'écolier au rayon des antiquités. Avoir l'œil sur l'écrit, prendre les textes au pied de la lettre, en nous demandant pourquoi une trop grande familiarité peut-être nous a rendus aveugles, en France en tout cas, aux immémoriales richesses de la chose écrite et imprimée, c'est ce que nous allons développer pendant une heure avec Marie-Hélène Potier, qui est en train de constituer pour le musée Champollion de Figeac une remarquable collection qui illustre l'aventure des écritures du monde. Olivier Germain-Thomas, que vous connaissez bien et qui a déambulé dans l'antique cité aujourd'hui libanaise de Byblos, dont le nom est tout simplement « Livre ». Un matin à Byblos, c'est un récit de voyage, une méditation aux sources de l'écriture qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Et enfin, Jérôme Peignot, écrivain, poète, essayiste, amoureux de la typographie, qui publie autour de textes de Marcel Cohen devenus des classiques, une véritable somme sur le sujet, histoire et art de l'écriture dans la collection bouquins aux éditions Lafon.
Da 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 da
Jérôme Peignot, bonjour. Je vous dédie bonjour. Ce petit poème de Armand Massard, petit poème lettriste d'Akodak. Alors vous êtes Jérôme Peignot, je pense que les auditeurs de France Culture vous connaissent bien pour vous avoir longtemps entendu dans nos émissions. Vous êtes un spécialiste de l'écriture et de l'art typographique. Vous êtes d'ailleurs d'une famille de typographes. Vous avez baigné dans l'encre d'imprimerie et dans l'encre d'écriture. Vous êtes véritablement un homme de caractère, sans mauvais jeu de mots. Vous avez même enseigné l'écriture à Paris 1, à la suite d'un doctorat sur la calligraphie romaine. Cet enseignement, d'ailleurs, Jérôme Peignot a disparu depuis. On va peut-être en parler, ça fera partie peut-être du mépris relatif dans lequel, ici en France, on tient donc l'écriture, la lettre, le signe en général. Et vous nous revenez aujourd'hui avec des textes déjà un petit peu anciens de vous, mais qu'on revisite, en compagnie de textes encore plus anciens de Marcel Cohen, grand maître, donc spécialiste de l'écriture. C'est « Histoire et art de l'écriture » qui vient de paraître aux éditions Lafond dans la collection Bouquins. Alors une véritable somme, Jérôme Peignot. Et donc, on va en profiter avec vous pour faire le point sur cette fantastique connaissance. Alors, l'invention de l'écriture, pour revenir un petit peu à des bases, car nous ne sommes pas des grands spécialistes comme vous, l'invention de l'écriture est un moment clé de l'histoire des civilisations, mais ça reste un moment énigmatique.
Oui. Permettez-moi de préciser un point, c'est qu'en dehors du livre de Cohen et de mes trois livres reproduits,
il y a d'autres textes.
Il y a un texte qui s'appelle Synthèse ou la psychologie des peuples, qui est un colloque passionnant, qui est sorti il y a environ une trentaine d'années chez Armand Collin, où tous les grands savants du sujet, Monsieur Gernet par exemple,
discutaient et n'étaient déjà pas du tout d'accord.
Oui, hein et Monsieur Gernet, Monsieur Lévi-Brulle, Monsieur Martin, Monsieur Filosa, Monsieur Brun, enfin les grands spécialistes de l'écriture discutent. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'ils sont pas tous d'accord. Voilà que l'écriture, n'est-ce pas, pardonnez cette métaphore, quand on soulève une pierre dans une forêt, ça grouille en dessous.
Alors regardons grouiller et essayons de voir les plus gros vers qui grouillent en dessous.
Voilà, quand on soulève le sujet de l'écriture, c'est l'humanité que l'on met en cause, là. Alors c'est très difficile de savoir par quel bout on prend ce sujet. Bien. Alors, vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment...
Pour l'instant, je voudrais savoir si, depuis Cohen, au jour d'aujourd'hui, et comme vous êtes un lecteur assidu de ce qui peut se dire et s'écrire dans The Man, est-ce qu'on a de nouvelles pistes pour comprendre comment l'écriture est arrivée dans les sociétés humaines?
Oui, justement, cet ouvrage qui s'appelle Synthèse, dont je viens de vous parler, montre déjà qu'au moment même où on imprimait ce texte, les savants qui étaient là n'étaient pas tous d'accord. Et on continue de discuter. Évidemment, on continuera toujours de discuter.
Alors, il y a déjà un premier point qui a été repris par Lévi-Strauss, donc à peu près au même moment, où il disait très clairement que l'invention de l'écriture était liée au fait de compter. Ça, on est toujours d'accord là-dessus.
Mais Lévi-Strauss a dit aussi que partout où est apparue l'écriture, elle est liée à l'exploitation de l'homme par l'homme. Il a dit ça dans Triste Tropique.
Oui, il dit que c'est l'apparition des sociétés hiérarchisées
contentons-nous pour 30 secondes, on passe 2 minutes, sur l'histoire de l'apparition de l'écriture. Alors, il y a déjà, je me trouvais là en contradiction avec Roland Barthes, qui s'intéressait beaucoup au sujet, vous avez cité avec raison tout à l'heure, lui pensait que c'était le commerce qui avait présidé à l'invention de l'écriture. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est la religion, c'est le sacré. À quoi est liée l'écriture? Et on pense trop vite que toutes les écritures sont faites pour être déchiffrées, et par tout le monde. Non. Par exemple, je cite l'écriture de l'île de Pâques, qui est encore mal déchiffrée, et quelquefois peut-être remise en dont les déchiffrements faits sont encore remis en cause aujourd'hui même, l'écriture de l'île de Pâques est vouée aux savants, aux docteurs de l'Église de l'endroit qui verrouille un savoir qui ne doit surtout pas être les hiéroglyphes. Vous n'allez pas me contredire. Hiéroglypho, ça veut dire écriture sacrée. Voilà encore quelque chose qui enferme les hiéroglyphes. Ne sont pas lus des fellahs de passage. Pour eux, il y a l'écriture hiératique et l'écriture démotique. Et encore, mais les hiéroglyphes ne sont pas compris Bon, alors,
donc,
d'autres,
vous,
enfin,
vous,
il y a l'écriture de Cajurao,
pas...
pardon.
Donc, l'invention de l'écriture, d'après vous, ne serait pas liée au fait de compter, de mémoriser des sacs de blé, des marchandises à échanger?
Non, non, pour moi, non. On a beaucoup dit ça du marin de Tyr qui aurait découvert le système pour codifier des ballots de blé, d'orge ou... Bien, oui, c'est une explication un peu trop facile. Non, non, il y a eu antérieurement à l'époque de Tyr, qui correspond un peu, à peu près, Rachamra, c'est l'invention de l'alphabet, moins 1500, mais 4000 à l'époque hiéroglyphique, je ne sais pas moi, la stèle de Goudéa, par exemple, nous sommes 2200 avant, ce ne sont pas des calculs, ce ne sont pas des calculs, c'est au contraire, le code d'Hammurabi est un code civil qui est là pour indiquer quels sont les modes de vie, les modes de... oui. D'échange, c'est vrai, mais c'est avant tout un code civil et qui se réfère à une divinité. Donc pour moi, c'est d'abord la religion qui a... Et cette religion a enfermé le savoir au lieu de le dispenser, au lieu de le répandre.
Donc faire passer les dieux dans la pratique des hommes et dans la société.
Et dans la société, oui, c'est ça. C'est... Mais sous contrôle du pouvoir. Je souscris absolument à la phrase de Lévi-Strauss qui dit que le pouvoir est encore détenteur du savoir.
Alors Jérôme Peignot, pour comprendre à quel point notre sujet est vaste et foisonnant et pourquoi il est nécessaire, je pense, de lire ce livre « Histoire et art de l'écriture », un chiffre, 400 écritures recensées.
Alors il y a 400 écritures recensées, mais pour combien de langues? Pour environ 6000 langues. Donc il ne faut pas confondre langue et écriture. C'est d'abord, vous avez raison d'insister là-dessus, la plupart des néophytes, parlons de cela trop vite, confondent écriture et langage, langage et alphabet.
Oui, notre écriture sert à écrire de l'anglais, par exemple,
oui,
ou de l'italien,
oui,
c'est
oui,
clair.
Oui, mais l'écriture chinoise est employée par beaucoup plus de... Leibniz disait que s'il y avait une écriture universelle qu'il fallait préconiser, c'était l'écriture chinoise.
Elle s'y prêtait mieux.
Ah ben bien sûr. Savez-vous par exemple qu'en Chine, les gens de Canton et les gens de Pékin ne parlent pas la même langue, mais se comprennent sur un même texte? C'est déjà, comment dire, une énorme avancée par rapport à notre alphabet, qui est finalement beaucoup plus complexe. Alors, nous y sommes habitués, mais finalement, en Chine, il y a quand même un milliard d'hommes qui utilisent l'écriture idéogrammatique.
Alors Jérôme Peignot, puisque on ne peut pas avoir, vous nous l'avez dit, un accord sur un certain nombre de points fondamentaux aujourd'hui entre les savants, est-ce que tout de même, depuis Marcel Cohen, un certain nombre de découvertes ont été avérées en ce qui concerne l'écriture, ou est-ce qu'on est toujours dans un immense chantier où il y a des théories irréconciliables? Aucun pas en avant n'a été fait depuis un demi-siècle.
Bon, je serais très présomptueux de ma part de vous tenir un compte détaillé de ce qui s'est fait depuis que Cohen a publié son travail et depuis que surtout ce synthèse dont je parlais a été publié donc il y a environ 40 ans et qui reparaît aujourd'hui, heureusement.
Donc, mais au moins une chose, enfin, donnez-nous un élément nouveau.
Oui, nous avons repris là, chez Lafont, l'essentiel. Bon, alors, il y a des éléments nouveaux, oui. Par exemple, je suis obligé de me limiter... je vous parlais de l'écriture de l'île de Pâques, j'évoquais tout à l'heure Cajurao. Cajurao, on n'est toujours pas arrivé, nous sommes du côté de la vallée de l'Indus, on n'est toujours
le
pas
fameux...
arrivé. Il bon, y a aussi...
On n'est pas arrivé à quoi? À déchiffrer?
Déchiffrer si, partiellement, mais pas lire un texte du bout en bout.
On peut toujours regarder les belles sculptures
ah oui,
fortes
oui,
évocatrices de Cajurao.
Confondons pas pictogramme, c'est-à-dire image, avec l'écriture. Gelb, un savant américain, dit « Il n'y a écriture que quand il y a corps constitué de signes. Bon. »
Alors donnez-nous une nouveauté, tout de même, que tous ces travaux d'un
siècle. Je vous interromps, il y a encore la linéaire B, hein, crétoise qu'on n'a pas découverte encore, dont on n'a pas découvert le sort. On ne connaît pas aussi mal les rapports entre l'écriture grecque et l'écriture chypriote. Enfin, le disque de Phaistos, là, il y a encore des ambiguïtés.
Qui est, lui, en idéogramme.
Alors, moi, personnellement, je me suis intéressé à une ambiguïté qui me paraît la plus importante, finalement, et la plus, en tout cas pour nous, c'est l'alphabet. Alors, la thèse normale, c'est que l'alphabet est apparu soit sous forme pictographique, phénicienne, soit sous forme cunéiforme. Moi, je prétends que l'alphabet est au contraire apparu sous une forme qui s'appelle l'écriture proto-sinaïtique et qui est une écriture qui a été au fond mise au point par des esclaves que sont les Araméens et les Cananéens qui étaient esclavagés par les Égyptiens travaillant dans une mine qui s'appelle la mine de turquoise qui se trouve au pied du Sinaï et que ces travailleurs qui exploitaient avaient trouvé un moyen, peut-être en s'inspirant de l'alphabet d'Amenophis IV, qui était un alphabet hiéroglyphique. Il y a eu un alphabet hiéroglyphique et dont justement les Égyptiens ne se sont pas, auxquels les Égyptiens ne se sont pas accrochés, parce que justement ils sentaient bien qu'avec l'alphabet, ils risquaient de perdre une partie de leur pouvoir.
Tandis que Jérôme Peignot bouillonne, je me tourne vers Olivier Germain Thomas. Bonjour, on va être sur un rythme...
Je me tourne vers vous, bonjour.
On va être sur un rythme plus détendu, puisque c'est une sorte de promenade méditative, érudite, que vous nous proposez, Olivier Germain Thomas, avec ce livre « Un matin à Byblos ». C'est finalement un récit de voyage, mais il se passe à Byblos, donc cette ville nommée Livre. Et donc, il a fort à voir avec notre question d'aujourd'hui, donc qui concerne la naissance de l'écriture. Alors ce lieu Byblos, qui d'ailleurs se dit au départ, comment on dit GBL,
Gubla, si on rajoute les... Enfin, je ne parle pas couramment le phénicien. Donc on écrit sans voyelle. J'ai peur de faire des erreurs. Mais voilà, il s'est passé une sorte de d'illumination, enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. D'abord, jamais je n'avais fait la relation entre Byblos et bibliothèque. Vous voyez qu'il y avait bien, effectivement, sur la carte, une ville qui s'appelle Byblos. Puis j'arrive un matin sur ce site, par chance, on était en automne, je suis tout seul, il y a la mer qui parle, les oiseaux, les vibrations de la terre, la montagne libanaise magnifique, toute la côte est saccagée, mais là, il y a une sorte de petit îlot de beauté, comme ça. Et je me dis, mais je marche sur la ville Livre, d'après le nom, Byblos. Et puis, on le sait, Jérôme Peignot le sait mieux que tout le monde, c'est ici qu'on a trouvé un sarcophage sur lequel il y a la première écriture phénicienne qui a donné l'écriture grecque, qui a donné l'écriture latine. Donc notre source est là, et soudain quelque chose a bouillonné en moi et j'ai eu envie d'écrire un livre qui n'est pas un livre de savant, qui est effectivement, comme vous l'avez rappelé, un livre de promeneur, de voyageur, de méditation, pardonnez du peu, à la fois sur le temps, sur l'amour, sur l'écriture. Et puis, le hasard fait bien les choses, il se trouve qu'un Chinois arrive sur le site. Magnifique, n'est-ce pas ?
Oui, qui fait le voyage donc depuis l'Extrême-Orient et qui est informé qu'il existe des barbares
à l'Ouest. Oui, ce sont des textes très anciens, trouvé à Venise, dans des manuscrits, restés un peu secrets, et le récit de ce voyageur chinois qui suit la route de la soie, qui abandonne ses compagnons à un moment donné, qui arrive à Gubla, Byblos, et qui est furieux de voir qu'on utilise une écriture alphabétique et non pas l'écriture sacrée des Chinois. Et pour montrer que l'écriture chinoise est bien supérieure à tout le reste parce qu'elle exprime la vie, car elle vient effectivement, comme Peignot l'a rappelé, elle vient du pictogramme, même si ensuite les choses sont devenues abstraites, mais ça se reconnaît encore. Le mot montagne, la porte mène, comme ça, on voit bien les battants de la porte. Qu'est-ce qu'il fait pour prouver à ces incultes de phéniciens que d'avoir inventé l'alphabet est une horreur, encore que maintenant, hein, que les trois quarts de la planète écrivent avec cet alphabet. Alors, il s'ouvre les veines, il trempe son pinceau dans ses veines, et il se sert de son sang comme de l'encre pour montrer que les mots, que le mot amour, que le mot arbre, que le mot marché, que le mot mer, que le mot que tous ces mots sont des mots de vie et que si on ne représente que le son, on s'éloigne même de la vie.
Alors cette histoire, vous l'avez inventée, vous prétendez qu'elle vient d'un récit araméen?
Ah non, ça c'est une histoire, je donnerai la cote si vous voulez. Oui, on trouve tout ça aux archives dello Stato, à Venezia, si on veut.
Ah oui, donc vous l'avez...
Un jour je pourrais vous dire. Voilà. Puis alors, il se trouve que alors là, donc, nous étions dans des temps très anciens. Mm-hmm. Et puis il se trouve que au XXIe siècle, donc, quand j'étais sur Biblos, arrive à ce moment-là un vrai Chinois. Alors on cherche une langue, comment se parler? Bon, il veut que je parle chinois, je ne parle pas chinois. Bon, j'essaie de le bluffer avec du sanskrit, il ne veut pas me répondre. Alors bon, il veut qu'on parle anglais. Je lui dis, écoutez, pas ici, quand même, pas ici, je vous en prie. Je respecte beaucoup la langue anglaise, moi, pas ici. On finit par se parler en latin, ce qui est bon, un petit jeu comme ça.
Ce qui prouve que vous avez tout de même quelques restes flamboyants de vos
restes,
études.
Des petits restes, voilà. Et puis alors, on s'amuse parce que, effectivement, Biblo, c'est à la fois l'écriture, c'est aussi le temps. Et c'est inouï dans cette ville de voir, si vous voyez là où il y a les tombes, vous voyez une espèce de mur, et vous dites, en dessous, on est à moins 4000 ou moins 5000, puis vous montez, vous avez...
C'est une patte feuilletée
de... Vous avez pratiquement plus de 1000.
De temps.
Alors, on s'amuse à inscrire sur des sortes de tuiles, chacun un mot de notre langue, à le glisser quelque part pour que les futurs archéologues aient un peu plus de difficultés à déchiffrer le mystère du temps et le mystère de l'écriture.
Alors une supercherie archéologique, est-ce bien raisonnable, hein? Est-ce bien éthique?
Faut-il être raisonnable? Il vaut mieux laisser le pouvoir à l'imagination, au rêve, à l'inattendu. Quand Peignot parlait justement du mystère de l'origine, je me disais, ben, heureusement qu'on ne l'a pas découvert. Heureusement, parce que ça permet justement une efflorescence de l'imagination.
Alors vous avez, à la suite de cette balade dans Biblos, donc Olivier Germain-Thomas a publié ce récit, donc Un matin à Biblos, dont vous dites, un de ces petits livres dont la chute ne fait pas mal aux pieds. Moi je trouve que c'est un livre petit, mais dans lequel on s'engage avec beaucoup de bonheur. Et d'ailleurs la référence à ce petit livre dont la chute ne fait pas mal aux pieds, c'est une référence que vous empruntez en fait à Céline, je crois.
Oui, c'était une vacherie de Céline à l'égard de Blondin. Et je dis que c'est assez difficile de le traduire dans une langue étrangère. À un moment donné où je m'interroge aussi sur les questions de la traduction, Céline, ayant reçu un livre de Blondin, le livre de Blondin n'était pas très épais. Elle lui avait écrit en disant « Ce que j'aime bien avec tes petits livres, c'est qu'ils ne me font pas mal quand ils me tombent des mains. »
Rester un moment dans Biblos pour nourrir un peu ce début de polémique que j'ai senti poindre entre vous, Olivier Germain-Thomas et Jérôme Peignot,
bon,
donc sur Biblos,
Biblos
comme lieu d'origine de l'écriture alphabétique, donc phonétique.
Je ne dis pas forcément de l'écriture en tant que telle. Vous avez cité le Sinaï, c'est la thèse de Christiane Desroches-Noblecourt, beaucoup d'égyptologues pensent effectivement, mais il y a peut-être eu beaucoup de tentatives de l'esprit humain de passer d'un système idéographique à un système syllabique, qui effectivement, il faut bien le reconnaître, est beaucoup plus simple, même si l'autre, le seul qui reste à l'heure actuelle dans le système idéographique, c'est effectivement l'écriture chinoise utilisée en Chine et au Japon et par quelques lettrés en Corée, même si l'autre est infiniment plus subtil.
Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément à Byblos ? Donc, notre propre écriture est née, de quelle manière ?
Alors, il s'est passé qu'à Byblos, on a sur un sarcophage du roi Hayalan, qui était un roi phénicien, on a ce qu'on considère, jusqu'à ce qu'on trouve autre chose, comme étant les premiers signes de l'écriture phénicienne. Et il se trouve que quand on dit écriture phénicienne et quand on ouvre un livre et quand on voit du phénicien, si on va un peu vite, on a l'impression que ce sont des signes qui nous sont très lointains. Et ça ne l'est pas du tout. Il suffit de mettre une glace, comme vous écrivez de droite à gauche, il suffit de mettre une glace et vous allez retrouver une série, pas la totalité, mais une série de lettres grecques, de consonnes grecques.
Puis donc il y a un renversement
parce de que ces les Grecs lettres. Ont écrit
de gauche à droite.
De gauche à droite. Mais si vous prenez, c'est probablement.
Ou Boustrophédon.
Oui.
Jérôme Pignot, oui, c'est ça.
Bon,
c'est
où
Boustrophédon, donc, l'espace de S.
Droite à gauche,
voilà, comme fait la charrue.
Comme un bœuf qui tire sa charrue dans le sillon.
Donc, en fin de compte, ces lettres sont tout proches des nôtres. Hein, parce qu'en fin de compte, du phénicien au grec, le passage est très facile. Du grec au latin, le passage est facile. Je ne parle pas de langue, là, je parle de lettres elles-mêmes.
Les documents les plus anciens, donc, pour cette écriture dont la nôtre serait issue.
Moins 1500.
Oui, moins
1500. L'alphabet, nous sommes d'accord là-dessus.
Oui. Comme l'alphabet, d'ailleurs, proto-sinaïtique, c'est moins 1500. Février dit, c'est bizarre.
Ah, c'est pour ça qu'on peut se battre,
c'est bizarre, oui.
Il y en a un qui sera à moins 1500 et l'autre à moins
1499. Il y a plusieurs formes d'alphabet qui sont apparues en même temps. Mais je voudrais revenir. Et c'est pas du tout polémique. Je suis très heureux d'entendre M. Germain Thomas.
Je cherche pas la polémique là.
Au contraire, ça me fait très plaisir de l'entendre et de bavarder avec lui. Mais je voudrais revenir quand même. Parce que je sens que vous tirez ça du côté de l'alphabet. Mais moi, je veux revenir au chinois.
Oui.
Je vais vous raconter une histoire. Vous disiez, les Chinois étaient furieux de voir qu'on avait abandonné, et finalement...
Je raconte une histoire.
C'est ça.
Bon, précise.
Bon, je sautais sur ce que vous disiez pour
c'est pas les Chinois.
Vous rappeler un petit épisode. Le président Mao Tse-tung, dont on contestait la valeur des poèmes parce qu'ils étaient dans mauvaise calligraphie, a voulu convertir le peuple chinois, un milliard de personnes, à l'écriture pidgin, à l'écriture alphabétique.
Qu'il était mauvais lui-même ?
Non,
simplifier.
Ça n'a pas le rapport avec l'écriture.
Pour alphabétiser, parce qu'il n'y a pas un milliard de Chinois qui domine l'écriture, il y a un milliard de Chinois qui parlent différentes sorte de chinois. Vous n'avez que quelques centaines de millions qui écrivent.
Mais je veux revenir
au
pictogramme, voilà mon idée.
Oui.
Savez-vous que derrière les idéogrammes, les sinologues savent retrouver le pictogramme qui les a générés. J'ai montré ça dans mon livre Typoésie, où je montre
le
cheminement du pictogramme à l'idéogramme. Bon, Mao Tse-tung a voulu faire revenir tout le monde au pidgin. Le pidgin était un alphabet latin, mis au point en 1920 par, je crois, les Français, simplement pour permettre aux touristes de ne pas accrocher, mal prononcer les mots chinois. Et on a pensé prendre ce pidgin pour permettre la facilité, la relation économique de la Chine avec le reste du monde. Eh bien, on n'y est pas arrivé, parce que la composante plastique, esthétique, calligraphique, je voudrais qu'on y revienne à la calligraphie, qui est mon grand point, finalement, la composante calligraphique, artistique, qui est une merveille absolue, cette merveille absolue ne doit pas disparaître. Or, elle a tendance à disparaître, elle a eu tendance à disparaître avec l'écriture alphabétique.
Ah, on peut se demander en même temps si ça ne serait pas une grave erreur, puisque vous dites vous-même, Jérôme Pignot, par ailleurs, dans ce livre, Histoire et art de l'écriture, que l'idéogramme chinois est un véritable espéranto. C'est-à-dire qu'en fait, certes, en le voyant, on ne peut pas le prononcer, enfin, on n'a aucune idée, mais que par contre, beaucoup de gens, des millions de gens peuvent le lire, même s'ils parlent une langue différente.
Mais bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'opposition du cantonais et de la langue de Pékin.
Alors ça, c'est un atout que Mao se serait retiré s'il avait utilisé le pidgin.
Oui, mais son problème, c'était un problème de commercialisation avec le monde extérieur.
D'alphabétisation du peuple aussi, mais qui se fait maintenant. C'est quand même très impressionnant d'aller dans des écoles, en Corée, au Japon, mais en Chine, dans des lieux reculés, et de voir les petits garçons et les petites filles tremper aujourd'hui, tremper leurs pinceaux.
Non pas dans du sang, comme votre chinois.
Dans de l'encre. Et puis le maître qui leur dit, quand c'est une bonne école, qui leur dit maintenant, vous pensez à l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, le signe est très facile. Et la forêt, c'est deux ou trois arbres. Donc là, c'est très facile. Maintenant, vous y pensez. Vous vivez ce signe. Et en l'écrivant, vous le vivez. Et c'est magnifique. D'autant plus que chacun des traits doit être fait selon un certain ordre. Alors, il y a quelque chose de très très beau, et ça aurait été une catastrophe pour la culture humaine que d'abandonner cette écriture qui est incontestablement une des plus belles de toute l'histoire de l'humanité, une des plus belles inventions.
Alors maintenant,
Jérôme Peignot.
J'ai défendu la calligraphie chinoise, maintenant je voudrais parler de la calligraphie arabe.
Ah bon, arabe.
Qui est une merveille également, n'est-ce pas? Mon ami Katibi est professeur d'écriture à l'université de Rabat. On ne peut pas séparer l'enseignement de la calligraphie de l'enseignement de l'écriture arabe. Tout ça forme un tout absolument indissociable. Les calligrammes en particulier, Katibi raconte dans un livre absolument magnifique qui s'appelle La blessure du nom propre, cette chose suivante. Vous savez que dans les pays berbères, on pratique le tatouage. Alors, le tatouage, ça consiste, on prend un verset du Coran, et on prend la bismallah, le début du verset du Coran, et le calligraphe doit transposer sur le corps de l'être aimé, par exemple, sous forme d'une espèce de morse, ce verset du Coran. De telle sorte que le prophète n'écrit pas. Le prophète dicte le Coran à ses affidés. Pas. Et ces affidés doivent, s'ils ont vraiment la foi, transférer sa parole en une image. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Alors, l'amant qui a posé sur le corps de la femme qu'il aime ce tatouage qui se réfère au Coran, en faisant l'amour avec elle, fera un calligramme. C'est une somptuosité extraordinaire.
Ba 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 Noum Noumoum Onapou Et Sousou Kili 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 koroum Snoum tsoum tkum noum tsoum Da du du da Iri da doum Tchnoum Kolakoum Onoumoum ba 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 ba.
Poème d'Ada, 1918. Alors là, on est bien loin de cette calligraphie arabe en lien avec le divin. On est plutôt du côté de l'Occident ludique par rapport au langage et par rapport à la calligraphie, puisque Jérôme Peignot, Olivier Germain-Thomas et Marie-Hélène Potier, que je voudrais introduire dans cette discussion. Bonjour Marie-Hélène Potier. Donc, c'est vous qui vous occupez du musée de Figeac dont on va parler tout à l'heure. Alors, cette calligraphie dont on va dire qu'elle est si peu présente malheureusement aujourd'hui chez nous, elle peut être aussi une source de simple plaisir.
Ah oui, attention. Alors, elle n'est pas
Jérôme Peignot de jeu.
Oui, bien sûr. Alors, elle n'est pas si absente que ça, mais justement, on ne sait pas qu'elle existe. Alors, c'est ce que j'ai eu à cœur de montrer dans le livre de Lafont, c'est qu'on connaît une calligraphie arabe, on connaît la calligraphie chinoise, mais on ne connaît pas notre propre calligraphie, qui est extraordinaire.
Et qui est une longue tradition, alors, puisqu'il faut remonter.
Il faut remonter, bon, disons, 14e, 15e siècle, mais elle s'est épanouie surtout au 17e, à la Curie romaine. Alors là se trouvent, à la Curie romaine, des gens qui sont des calligraphes et qui recopient en cancellaresca, c'est l'écriture du Vatican. C'est une écriture très particulière, définie, très difficile à reproduire. Et cette cancellaresca, c'est l'écriture du pape. Dans cette écriture du pape, il faut recopier les bulles pontificales et tous les écrits sortant du Vatican. Alors, ces messieurs, dont le plus connu s'appelle Pisani, pour se faire la main, à la faveur de concours qui durent 10 minutes, créent des personnages. J'ai reproduit un cavalier sur sa monture, un Saint-Georges en train de pourfendre le dragon, mais aussi des représentations de l'amour et de la mort. Comme bizarrement, ce sont généralement les sujets traités par ces calligraphes. Alors, ils ont mis donc en scène un art qu'on appelle l'art du trait de plume, et ce sont d'absolues merveilles. J'ai découvert, je me vante d'avoir découvert ça
dans la bibliothèque
dans
du
la
Vatican.
Bibliothèque du Vatican.
Et leur avoir fait découvrir à eux-mêmes.
Et avoir fait découvrir le garçon qui charmant qui m'a ouvert, qui a découvert pour moi dans les arrière-tiroirs du Vatican, cette calligraphie et ses travaux m'a dit, quand il m'a apporté ce volume de Pisani et qu'il me l'a mis entre les mains, il m'a dit, vous êtes attendu par le cardinal commandant la destinée de la Bibliothèque Vaticane qui vous attend dans son bureau pour vous remercier de ce que vous venez de trouver. Et ce que je venais de trouver, c'était finalement la calligraphie, les somptuosités de la calligraphie du XVIIe dans notre écriture romaine, latine, et qui sont une absolue merveille. Alors, et qu'il faudrait reproduire encore, parce que Lafont n'a pu reproduire que malheureusement 3 ou 4 de ces images, mais il y a encore un livre. Il avait été reproduit, je l'avais reproduit chez Damas, quand j'ai publié mon livre pour la première fois, mais il y a encore bien d'autres choses, il y a une somptueuse édition à faire là.
Petite incursion dans le monde des bénédictins et notamment des scriptoria, ces lieux où on cultivait l'art de la plume et surtout de l'enluminure d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que dans les scriptoria c'était quand même plus l'enluminure que la calligraphie elle-même.
C'est Alcuin qui a fixé notre écriture actuelle qui s'appelle la Caroline, et c'est dans un couvent à Tours.
Voilà, donc les bénédictins, salut aux bénédictins, et bonjour à vous Marie-Hélène Potier. Je ne voudrais pas que la seule femme présente autour de cette table comme invitée n'ait pas la parole, surtout que vous nous apportez une bonne nouvelle, parce qu'on va avoir l'occasion dans quelques minutes de se rendre compte à travers ce qui se passe en ce moment autour de l'imprimerie nationale. On a un peu l'impression que la France se désintéresse de son patrimoine en matière d'écriture, de calligraphie. Vous êtes là pour nous prouver le contraire, Marie-Hélène Potier. Vous êtes donc, je le disais, conservateur du musée Champollion à Figeac, et vous êtes attelé à un très très gros projet de rénovation de ce musée, avec adjonction d'une nouvelle collection qui a l'air absolument passionnante et que vous êtes en train d'ailleurs de constituer. Histoire de l'écriture, aventure de l'écriture.
Oui, c'est ça. C'est très contradictoire, pour rebondir sur la conversation précédente, c'est qu'à l'époque où le gouvernement se désintéresse de l'imprimerie nationale, nous allons peut-être en parler tout à l'heure, on peut ressentir les personnes, les visiteurs d'un musée, les personnes dans la rue, de plus en plus intéressées à la calligraphie, d'abord comme art, comme geste, très beau geste, posé, réfléchi. Et également de plus en plus intéressé à cette histoire de l'écriture, dont effectivement le musée Champollion de Figeac va s'atteler pour la présenter plus amplement au public.
Alors, au départ, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez donc des objets autour de Champollion, et puis vous aviez quelques éléments sur les origines de l'écriture, quelques tablettes sumériennes.
À peine. En fait, le musée Champollion a été créé parce qu'il s'agit de la maison natale de Champollion à Figeac. Donc, c'est aujourd'hui, c'était jusqu'à hier, je dirais, un musée d'égyptologie. Et il devient en ce moment, il rouvrira en 2007, en tant que musée de l'histoire des écritures du monde. Dans la mesure où Champollion a consacré sa vie aux écritures pour avoir accès à la civilisation égyptienne. Et il nous a semblé aussi intéressant, à cette époque où tout le monde s'interroge sur l'écriture, qu'en est-il aujourd'hui de cette écriture? On est en plein dans une civilisation d'écriture à travers le numérique, à travers toutes nos correspondances dans le monde entier. Et il a semblé intéressant de faire un musée sur ce thème pour que les visiteurs s'y retrouvent, je dirais familièrement, c'est-à-dire en connaissent les tenants et aboutissants, d'où vient cette histoire, comment a-t-elle évolué, quand est apparu l'alphabet, par exemple, il nous semble évident, ce n'est pas du tout évident, on se dispute encore sur ce sujet, et aujourd'hui, qu'en est-il de cette écriture latine ?
Donc il y aura à la fois des objets qui parleront de l'invention de l'écriture, donc des objets que vous allez nous dire peut-être si vous avez 2-3 objets phares ou que vous avez déjà acquis ou que vous cherchez à acquérir en ce moment. Et il y aura toute une un travail de sensibilisation, voire un apprentissage peut-être de la calligraphie autour du musée.
Oui, alors c'est donc l'originalité de ce futur musée. Et de se constituer non pas autour d'une collection préexistante, mais autour d'une idée d'un homme exceptionnel, entendons-nous bien, et de son travail de recherche et de cette histoire des écritures. Donc la recherche des collections se fait selon un programme que j'ai mis au point, mais avec l'aide de nombreux spécialistes. Et on essaie par ce biais-là de présenter l'écriture. Alors non pas, même si bien sûr on parle du tracé, des outils, des supports, mais de le montrer comme un fait culturel et technique, bien sûr. L'écriture comme étant un des vecteurs des cultures du monde à travers le temps, à travers l'espace, et étant un fait de culture, quelle est la place que tient l'écriture dans une société?
Et vous incluez donc un regard sur l'histoire de l'imprimerie aussi, ou pas?
Absolument. Oui. Donc on parle de l'invention de l'écriture. Pourquoi l'homme a-t-il inventé l'écriture? C'est une des grandes questions qu'on me pose régulièrement. Comment a-t-il fait? Comment s'y est-il pris? C'est une invention intellectuelle de très grande importance et difficulté.
Alors quels objets avez-vous rassemblés à l'appui de cette question? À défaut de réponse, alors, quels objets vont éclairer la question?
Alors voilà, donc ce propos scientifique, disant que l'objectif, effectivement, c'est de le transcrire, de le traduire en un propos muséographique. Alors, parlons de l'invention de l'écriture. Nous avons acquis, il y a un an, une tablette en argile qui a encore des signes figuratifs, c'est-à-dire que c'est là vraiment la première génération des objets d'écriture. Elle est de moins 3200, donc elle est dans ce premier siècle d'écriture.
Elle vient d'où?
Et elle vient de Mésopotamie, nous allons dire. C'est l'écriture sumérienne. Et elle porte encore des signes figuratifs. C'est-à-dire, on voit un champ irrigué avec ses rigoles d'irrigation, des cuisses de bovins, une main. Donc, c'est encore, et c'est, même si on pense que l'écriture a pu être liée très vite à la religion, là, en Mésopotamie, on a, les témoignages archéologiques nous montrent que l'écriture est liée à la vie économique, aux échanges, location de terre, salaire des employés du temple. C'est peut-être aussi parce que des inscriptions sacrées ont pu être faites sur des matériaux périssables et ont disparu depuis le temps. Mais en Mésopotamie, on a la preuve que les premiers signes d'écriture ont été utilisés par des marchands ou pour des échanges économiques.
Alors cette pierre représentait une sorte de chaînon manquant, vous avez l'impression, entre le signe imagé en quelque sorte et l'écriture. Vous la connaissez cette pierre, Jérôme Peignot ou Olivier Germain-Thomas?
Non, il y en a bien d'autres, non, je ne connais pas.
Il y en a bien d'autres au musée du Louvre notamment.
Je ne connais pas, oui, il y en a bien d'autres. Et puis, il faut aller la voir. Mais d'après ce que vous dites, on a employé dans ces écritures le système du rébus, c'est ce qu'ont beaucoup fait les Égyptiens, finalement, et le système de la bande dessinée, carrément, la bande dessinée. Alors, d'après ce que vous nous dites, là, il y a une représentation imagée, pictographique, hein, en même temps que des signes abstraits, déjà.
C'est des signes pictographiques, donc je pense qu'ils dessinent des cuisses de bovins, c'est qu'ils vont soit vendre, soit échanger de la viande.
Oui,
mais après, il y a des signes idéographiques, c'est-à-dire s'il y a une main, c'est sans doute pour identifier une personne,
oui, mais
pour en faire un saut.
Pardonnez-moi, je vous interromps, mais vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit d'une écriture. Gelb, encore une fois, je reprends sa phrase que je me semble avoir déjà citée tout à l'heure, mais que je redis, on ne peut parler d'écriture que quand il y a corps constitué de signes. Alors là, avec votre épigraphie, hein, votre pièce épigraphique, il n'y a peut-être pas écriture encore. Encore que vous me dites que par le carbone 14, vous avez dû dater ça du 3200 avant. Mmh. Alors, à 3200 avant, il y a déjà les écritures. L'Acadien a commencé 4000 avant.
Mais vous voyez, on est en pleine polémique, ouais, effectivement, sur la mention de l'écriture.
Ça va être formidable, comment la Figeac, vous allez pouvoir vous affronter.
A-t-elle été inventée? Par qui? Comment s'est fait
aussi,
ce phénomène?
Il y a aussi un exemple d'écriture maya dans votre collection.
Oui, alors nous allons aborder la naissance des écritures à travers les 5 écritures fondatrices, donc l'écriture maya, bien sûr, qui est aux mains des chamans essentiellement, pense-t-on, l'écriture chinoise, bien sûr, et également l'écriture que vous mentionniez tout à l'heure, l'écriture proto-indienne, qu'on en a trouvée dans des sites comme Mohenjo-Daro ou Harappa, dans la vallée de l'Indus, qui est intéressante parce que c'est encore une écriture non déchiffrée.
Voilà, c'est ce que je vous disais.
Voilà. Donc effectivement, ce musée va retracer l'histoire des écritures à travers ces grandes étapes, essentielles à la compréhension de cette histoire.
Donc avoir plaisir à partir de 2007 à visiter l'aventure des écritures, donc cette nouvelle aile au musée Champollion de Figeac, qui d'ailleurs est aujourd'hui l'objet d'une construction tout à fait exceptionnelle. Enfin, il y a un grand projet architectural qui va avec cette histoire-là, Marianne Petit.
Oui, un projet architectural qui est en cours, qui est mené par Alain Moati. Et on a grandi le musée. Jusqu'à aujourd'hui, il était dans la maison natale de Champollion. Il va désormais tripler, quadrupler de volume. Et effectivement, c'est un projet intéressant parce qu'il est inscrit dans des maisons médiévales. Figeac est une ville parfaitement médiévale. Donc, des maisons 13e, 14e siècle, transformées en musée.
Donc, un effort considérable pour cette petite ville. Alors ça, c'était l'aspect positif. Maintenant, on va aller regarder vers des choses un petit peu plus inquiétantes puisque on a tous, je crois, plus ou moins entendu parler de ce qui tourne autour des collections de l'Imprimerie nationale. Et on disait tout à l'heure que la France semblait ne pas avoir un intérêt passionné pour l'histoire de sa calligraphie et peut-être encore moins pour l'histoire de l'imprimerie, puisque actuellement, les collections de l'Imprimerie nationale, enfin, il y a 3 surtout collections principales, dont une qui comporte beaucoup de savoir-faire et donc pas seulement des objets, qui sont aujourd'hui en péril. Alors, Jérôme Peignot, vous avez un petit peu déclenché cette affaire-là un bon moment pour tirer la sonnette d'alarme.
Il y a 20 ans que je m'occupe de cette affaire. Mais, petite parenthèse, un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas répondu, que vous avez posées sur l'origine de l'écriture, des réponses se trouvent dans le livre de Lafont.
Histoire et art de l'écriture, donc il y a un demi-siècle. Alors Marcel Cohen y répondait déjà.
Ah oui, mais beaucoup des questions que vous avez soulevées, je n'ai pas le temps d'y répondre, mais Marcel Cohen y répond beaucoup mieux que moi, et le dialogue synthèse. Et puis moi-même, j'ai apporté ma contribution à répondre à un certain nombre de questions.
D'où l'intérêt d'avoir donc ressorti cet extrait. Alors parlons maintenant de l'Imprimerie nationale, nous sommes détenteurs en France d'un patrimoine exceptionnel, unique au monde, dont je vais vous demander de nous dire deux mots. Et je voudrais que s'introduise maintenant dans cette conversation quelqu'un qui fait partie, comme vous, de l'association Garamond Patrimoine et qui milite au quotidien, tout à l'heure l'état actuel de la question. C'est Alain Joly. Bonjour Alain Joly.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Bonjour Jérôme.
Alors, Jérôme Peignot a commencé il y a quelques années et vous, aujourd'hui, vous occupez donc au jour le jour de cette association. Mais vous nous direz que les choses sont pas trop... Alors, un petit mot tout de même. Sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui ce fameux patrimoine de l'Imprimerie nationale qui risque d'être dispersé? Rapidement.
Je vais très vite. L'Imprimerie nationale a été propriété de l'État jusqu'à une période assez récente où elle est devenue une entreprise privée. C'est-à-dire que du capital privé est entré dans la gestion de l'entreprise. Bizarrement, l'Imprimerie nationale est toujours propriété de l'État. C'est toujours le ministre des Finances qui est le grand patron. en titre de l'imprimerie nationale.
La tutelle, c'est ça. C'est alors, le
qu'est-ce qui s'est passé à partir des années, justement, à partir de ce transfert, de fonds du public au privé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'imprimerie nationale? Alors, en même temps, s'est passée la révolution de l'informatique. Hein, alors, qu'est-ce qu'on fait de ce plomb? Qu'est-ce qu'on fait de ce plomb? C'est-à-dire des plombs dans 80 langues différentes. Des poinçons, en particulier des poinçons du Garmont.
Alors un poinçon,
des machines qui sont là depuis François Ier.
Alors un poinçon, ça sert à quoi en imprimerie? Ça sert à fabriquer les caractères.
Ça sert à fabriquer une matrice dans laquelle on enfourne du plomb pour faire les caractères. Alors, il y a plusieurs façons de faire les caractères. Il y a les caractères de fonderie, où il y a des caractères dits monotypes. Il y a aussi la linotype. Mais ce plomb n'est plus en usage. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce plomb? Alors, je milite, je dis parce que je m'en vante, je me suis battu parce que je fais partie d'une famille de fondeurs de caractères d'imprimerie. Mon nom c'est Peignot, je participais à ma famille a travaillé dans une fonderie qui s'appelle la fonderie de Berny et Peignot, qui fabriquait des caractères d'imprimerie.
Et là, c'est votre héritage qu'on dilapide, alors.
Je me suis employé au transfert des poinçons de la fonderie de ma famille à l'imprimerie nationale.
Et voilà qu'on vous les embarque. Alors, on ne sait pas où.
Alors maintenant, ils sont enfermés. Ils étaient enfermés rue de la Convention, où il y avait un énorme immeuble où tout ça se trouvait stocké. Alors aujourd'hui, si vous passez devant la rue de la Convention, vous verrez que des bulldozers sont en train de défoncer les murs pour enlever tout ça. Et pour enlever tout ça, pour le mettre où? Et pour en faire quoi?
Alors aujourd'hui, le doute demeure.
Le doute ne demeure pas. On est en train de stocker ça à Ivry, dans
des containers.
Dans des endroits, en tout cas, qui ne peuvent être, comme dit Alain, qui ne peuvent être que dans un lieu provisoire. Mais si c'est un lieu définitif, c'est une catastrophe, parce que tout ça doit être entretenu. 30 000 volumes, par exemple, ça se conserve.
Alors, Alain Joly, une bibliothèque d'un côté, le cabinet des poinçons, et puis un troisième patrimoine extraordinaire à l'imprimerie nationale, et ça vous touche de près, puisque vous êtes vous-même typographe, oui. C'est l'atelier du livre. Alors, un mot sur cet atelier du livre, qui est lui aussi en grand péril.
Oui, ce qui est intéressant et assez exceptionnel dans cet ensemble, c'est que l'on a là groupé la totalité des savoirs historiques de l'imprimerie, donc avec d'une part toute cette partie spectaculaire et fondamentale de l'invention de Gutenberg qui est celle des poinçons et de la fonderie des caractères, d'autre part cette bibliothèque dont Jérôme faisait état qui a 30 000 ouvrages, dont 5 000 qui ne traitent que d'imprimerie et de l'écriture, et à côté de cela, un atelier
avec des gens qui ont des compétences, qui vont se perdre s'ils ne les transmettent pas.
Il y en a beaucoup qui ont déjà été mis à la porte.
Certains sont les derniers. Il y a par exemple un phototypiste. Ce phototypiste, il est seul à détenir son savoir. Il existe en province un amateur éclairé qui ne reste qu'un amateur qui connaît ce savoir. Mais le jour où ce phototypiste arrête son activité, il ne peut plus le transmettre à personne. La gravure des poinçons, il y a Nelly Gable qui est à l'heure actuelle conservateur, elle souhaite qu'on utilise ce terme, du cabinet des poinçons depuis la mise en retrait volontaire de Christian Papu, elle est seule en Europe, ou à peu près. Ils sont 4, 5 peut-être dans le monde à connaître cette technologie. Elle est la seule professionnelle en exercice, etc. etc. Donc on a là une... Je vais utiliser le terme horrible de pépinière, parce que ce sont des gens qui sont tous sur la fin de leur carrière. Ce sont des métiers qui nécessitent parfois une dizaine d'années ou plus pour pouvoir les pratiquer correctement.
Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des gens, j'imagine, au sein de l'école Estienne, notamment, qui est quand même la grande école en la matière, qui transmettent ces savoirs. Après, ces 15 personnes de l'atelier du livre, on ne ferme pas quand même définitivement la porte?
Alors, pas tout à fait. Et à l'école Estienne, grâce à l'initiative d'enseignants et puis du proviseur, qui est quelqu'un de très actif dans ce domaine, l'imprimerie qui était autrefois un métier exclusivement masculin est en passe de se féminiser puisque le proviseur d'Estienne est une proviseure. Ont bien sûr un atelier qu'ils appellent le LEG et qui est le laboratoire d'études graphiques et qui apprend à tous les étudiants qui passent par l'école quelques-unes de ces techniques. Mais une fois encore, il ne s'agit que d'exercices. tous les métiers ne sont pas représentés et on n'a pas cet ensemble cohérent qui existe à l'Imprimerie nationale. Donc là, cet atelier du livre aurait tout naturellement sa place, bien évidemment, à l'école Estienne. Malheureusement, la place à Paris est comptée. L'école Estienne est trop petite. Alors, il y a peut-être un projet architectural qui permettrait d'inclure notre projet que nous appelons Cité.
Alors, parle-nous de Bobigny.
Ouais.
Alors, Bobigny, semble-t-il, pourrait vous accueillir.
Voilà.
Hein, dans un lieu qui était d'ailleurs autrefois le lieu de l'illustration, c'est bien ça.
C'est ça.
Autant l'école Estienne est un lieu mythique de l'enseignement des métiers de l'imprimerie, autant l'imprimerie de l'illustration à Bobigny, qui est juste à côté de l'ancien hôpital franco-musulman qu'on appelle maintenant l'hôpital Avicenne, est un bâtiment qui a été construit qui a été inauguré en 1933, qui est assez exceptionnel, un bâtiment de briques très très beau, gigantesque, et qui est maintenant sous la tutelle de l'Université Paris 13.
Alors où en est la possibilité du transfert de cet atelier du livre à Bobigny ?
Eh bien, il y a tout un projet, gigantesque de réhabilitation de ces bâtiments, au profit bien sûr de l'université, pour en faire le premier campus universitaire totalement ouvert au public. C'est unique en France, ça sera unique en France. La communication est l'un des thèmes traités à Paris 13, et en principe, sous peine de vérification, l'Université Paris 13 va ouvrir un IUT de métier de l'imprimerie.
Alors qu'est-ce qui manque pour l'instant ? Ce sont les fonds, j'imagine.
Pardon ?
Ce sont des fonds qui manquent pour l'instant.
Alors, des fonds, non, enfin... Oui, bien sûr, toujours, c'est toujours un problème. Non, pour l'instant, il s'agit surtout de volonté politique. Donc là, il est évident que toutes les instances régionales, départementales, communales et l'université elle-même veulent faire de ce lieu un lieu qui s'appellera la Maison internationale de l'illustration, un lieu de référence, et que, bien évidemment, l'ensemble de ces personnes sont toutes très, très, très intéressées à ce que notre projet cité puisse être abrité dans ces locaux.
Alors, cette votre inquiétude, Jérôme Peignot et Alain Joly, au jour d'aujourd'hui. Où en est la question ? Vous avez recueilli 21 000 signatures. Dites-nous.
Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une pétition à la foire de la poésie il y a 4 ans.
Oui, non, mais aujourd'hui.
Et puis alors, tout d'un coup.
Vos signataires, qu'est-ce qu'on peut leur dire ?
Nous sommes une vingtaine qui ont décidé de mettre ça sur ordinateur et sur Internet, et nous avons recueilli plus de 20 000 signatures. C'est ça, hein, là. 20 000 signatures provenant de professeurs d'universités du monde entier, Colombie, aux États-Unis, le Canada, le Japon.
Non, mais c'est très bien, ça
oui.
donne
alors, mais on,
du lustre à votre mouvement.
On envoie tout ça au président de la République,
mais...
et le président de la République ne répond pas, fait rien. Et les pouvoirs publics ne font rien. Et finalement...
C'est complètement bloqué, alors
C'est un petit peu, voyez-vous, si on a construit la Tour Eiffel, mais on a construit aussi la gare Montparnasse. Alors, on va détruire la Tour Eiffel parce que c'est plus intéressant, parce que la gare Montparnasse, c'est beaucoup plus efficace. C'est un peu ça.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine, qui est un savoir inestimable ?
Alors, Alain Joly, vous qui êtes sur le dossier au jour le jour, au quotidien...
Oui.
Aujourd'hui, le problème est le suivant, c'est que... Du côté de Bobigny, tout semble se présenter de façon extrêmement favorable. Mais maintenant, comme Jérôme l'a exprimé tout à l'heure, l'Imprimerie nationale a un ministère de tutelle qui est celui des finances. Tant que ce ministère ou tant qu'une instance supérieure, c'est-à-dire le Premier ministre ou le Président de la République, n'auront pas exprimé clairement la volonté...
Oui, ça va végéter.
Voilà, exactement.
Alors, est-ce que tout ça ne va pas de pair avec quand même une absence d'intérêt manifeste pour toutes les questions qui tournent autour de la langue, plus largement, puisqu'on a dit, effectivement, écriture-langue, c'est pas la même chose, mais là, on s'aperçoit que ce désintérêt peut-être en rejoint un autre, Olivier Germain-Thomas, puisque c'est une question qui vous préoccupe beaucoup.
Je trouve que
beaucoup.
L'état de l'enseignement de la langue dans les lycées français, en dehors de lycées et collèges, en dehors de quelques exceptions dans les beaux quartiers, est absolument catastrophique. Et c'est parce que justement on néglige la langue, on le néglige pour d'autres matières.
Qu'on néglige l'écriture et l'imprimerie.
L'écriture. Tout se tient.
Et la typographie.
Et c'est parce que ceux qui dirigent n'ont pas compris que la langue est quelque chose qui structure l'esprit. Quand on dit qu'il faut simplifier le langage, c'est une connerie monumentale.
Ah, absolument.
Regardez quand même la société japonaise qui apprend une des langues les plus compliquées du monde. Trois systèmes de transcription. Et ensuite, quand vous les voyez devant l'informatique, Il dépasse le monde entier. La langue structure. C'est une cause nationale la plus importante qu'il y a aujourd'hui, qui est la défense de l'enseignement de la langue française dans les lycées et dans les collèges. Voilà.
Alors, pour faire avancer cette question, ben on peut continuer de signer après tout cette pétition. Hein, gare à mon patrimoine, en un seul mot.
Non, gare à mon patrimoine.org.
Un court instant sur les
points.
Non, pas FR.
Alors, allez-y, gare à mon patrimoine.org.
Et si vous me permettez un instant.
Non, parce qu'on a, on est en train de finir l'émission.
Non, mais Alain va être plus précis que moi.
Alors, le site.
C'est www.garamonpatrimoine, c'est comme gare.
En un seul mot.
Monpatrimoine.org, où on trouvera toutes les informations. Et je voudrais un instant rebondir sur ce qu'a dit Olivier Germain-Thomas pour dire que ce projet cité est un projet complètement tourné vers l'avenir. Parce qu'on a toujours tendance à.
Oui, à penser patrimoine un peu comme ça, conservatisme, oui.
Conservatisme, non, là, pas du tout. Ça doit être un outil de travail pour les générations futures.
Très bien, merci. Alors, aussi des lectures, bien entendu, Histoire et art de l'écriture par Marcel Cohen et Jérôme Peignot, collection bouquins édition Lafond. Et puis également vos petites nouvelles là, qui viennent de paraître, Jérôme Peignot, Broyé du bleu. Ça vient de paraître aux éditions du Rocher, aux mêmes éditions du Rocher. Donc une promenade tout aussi érudite, mais plus détendue et moins tout de même agressive. Un matin à Biplos, Olivier Germain-Thomas, donc l'un de ses récits de voyage. Le précédent d'ailleurs se déroulait dans cette Chine dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Donc un matin à Biblos, Olivier Germain-Thomas, édition du Rocher. Puis on vous retrouve tous les dimanches soirs sur France Culture pour Fort Intérieur. Également, le musée de Figeac, Marie-Hélène Potier. Donc je crois qu'on peut consulter aujourd'hui un site en
oui,
l'absence...
Oui, alors pour te tenir au courant de l'avancée des travaux et de la réouverture qui est prévue en juin 2007,
oui.
C'est le site www.ville-figeac.fr. Toutes les informations seront données, ainsi que les informations sur toutes les éléments, les activités pédagogiques, comme vous l'avez cité tout à l'heure, qui seront mises en place pour intéresser, susciter l'intérêt et la curiosité des visiteurs.
Merci.
Sur ce sujet de l'écriture.
Alors, beaucoup d'autres pistes aussi de lecture, nous vous les donnons sur notre site franceculture.com en cliquant sur Tout un monde. Donc, on vous a fait toute une série de livres, notamment le classique et très bien fait de Georges Jean, l'écriture Mémoire des hommes, qui est en découverte Gallimard. Et puis, bien tout de suite, fin de cette première partie de Tout un monde qui vous était proposé avec le concours de Fanny Richez par Marie-Hélène Fraissé. À la technique se trouvait Alexandre Dang, à la réalisation Guillaume Baldi. À 16h.